Bonjour à tous. Je ne peux m'empêcher de parler du temps qu'il fait parce qu'il y a de la neige. J'espère qu'elle continuera à tomber et qu'elle fondra en juillet. C'est ce que je préférerais. Il se peut donc que je sois seul sur ce point. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Nous pouvons nous limiter à cela. Nous allons jouer à 20 questions. Si vous voulez. D'accord. Suis-je un chat? Non. Pas de oui dans la salle. C'est bien. Êtes-vous un chat? J'ai commencé par cette question au lieu de celle du chien, parce que je préfère les chats aux chiens, mais suis-je un chien? Êtes-vous un chien? C'est facile de dire non, n'est-ce pas? Avec un peu de chance, c'est facile de dire non. Il y a des gens qui s'habillent comme des animaux et qui aiment se faire passer pour eux. Alors, je suis grand. Attention. Êtes-vous grand? Suis-je un homme? Tu es un homme? Je suis une fille? Non. Êtes-vous une fille? Chacune de ces questions est relativement simple, n'est-ce pas? Pour la plupart d'entre elles, vous vous dites que vous pouvez y répondre. Cela ne demande pas vraiment de réflexion, mais au fur et à mesure que nous définissons nos caractéristiques et que nous avançons, il devient un peu plus difficile de répondre. Suis-je gentil? Êtes-vous gentil? Vous dites. Je me prends pour exemple, mais vous pourriez vous poser la même question. Faites-la résonner dans votre esprit comme je la pose de mon point de vue. Est-ce que j'aime? Eh bien, vos réponses ne sont plus aussi tranchées et sèches, n'est-ce pas? Elles sont toutes nouvelles. J'essaie. Il y a peut-être des domaines. Suis-je chrétien? Vous pouvez vous sentir mieux sur ce point. Oui, je suis converti. Je sais que je vois une croissance. Et si nous ajoutions un qualificatif? Suis-je un chrétien efficace? Il y a un peu plus que le simple fait que nous sommes chrétiens si nous avons l'Esprit de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance dans chacune de ces questions, selon la façon dont je les qualifie, ce que je demande, la nuance que j'apporte, cela change la facilité de la question par rapport à suis-je un chat? Non. Elle commence à devenir, en quelque sorte, des devinettes. Voici une question à laquelle les gens répondent beaucoup trop vite, mais qui est souvent vraie. Suis-je philadelphien? Eh bien, je fais partie de l'Église de Dieu restaurée, donc oui, bien sûr. Vous pourriez demander la version opposée de cette question. Suis-je laodicéen? En général, les gens répondent non, bien sûr que non. C'est quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs, comme on dit. Oh, ce sujet est amusant. Je rendais visite à ma mère pour Thanksgiving, elle était dans une fissure et elle m'a carrément demandé, pensez-vous que je suis laodicéen? C'était une conversation agréable. Nous avions une conversation normale et il y a eu un moment où je me suis dit, Dieu, mets un mot dans ma bouche. Juste un mot pour l'instant. Nous avons eu une bonne discussion sur le corps du Christ, et ce fut une bonne discussion, utile, et en fin de compte, j'ai reçu une réponse qui ne m'a pas valu d'être expulsé à Thanksgiving. C'était donc très positif. Mais je voudrais la remercier pour l'idée de ce sermon parce que j'ai répondu à la question, mais cela m'a fait revenir en arrière et penser, suis-je un laodicéen? Qu'est-ce qui me fait penser qu'elle l'est si je ne peux pas définir clairement et rapidement ce qu'est un laodicéen par rapport à un philadelphien? C'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé dans le passé. Nous ne l'avons pas tellement abordé, peut-être dans un sermon il y a quelques années, mais ce n'est plus un sujet dont nous entendons souvent parler à mesure que la distance entre les pays s'accroît avec le temps. Nous n'y pensons plus de la même manière. Mais aujourd'hui, je vais nous ramener un peu en arrière. Nous rappeler à notre bon souvenir. Explorons ce qu'est la condition laodicéenne. Ensuite, mettons-la en contraste avec ce que cela signifie d'être et de s'assurer que nous restons ou devenons des Philadelphiens. Encore une fois, il s'agit d'une révision. Vous revenez en arrière, vous pourriez lire, oindre vos yeux, la littérature de l'éclatement. Il y a tant de choses sur notre site web qui couvrent ce sujet, mais nous n'y pensons plus vraiment, parce que ce qui est dangereux pour vous et moi à notre époque, c'est que nous supposons. Parce que nous sommes ici. Nous obéissons à Dieu d'une manière générale. Nous essayons de faire ce qu'il faut. Nous essayons de respecter les 10 commandements. Nous respectons les jours saints. Nous payons la dîme. Bien sûr, je suis un Philadelphien, mais ce sont les mêmes choses que font les gens de l'église dissidente. Ils paient la dîme. Ils respectent les jours saints. Ils essaient d'être gentils les uns avec les autres. Qu'est-ce qui nous différencie des groupes de masse qui, souvent, ne parlent même pas de ce sujet ou n'y pensent même pas? Parce que c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Vous et moi vivons à l'époque laodicéenne. Par cette définition même, notre position par défaut, et c'est ce qui peut nous rendre différents, notre position par défaut est que je suis laodicéen, parce que si je suis en Amérique, disons que je suis en Amérique en ce moment. Je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de Canadiens dans cette salle. Mais mon hypothèse par défaut avec tous ceux qui sont dans cette salle, les Nigérians, les autres, mon hypothèse par défaut est que tous les gens qui sont dans cette salle sont américains. Nous sommes à l'ère laodicéenne. Notre hypothèse par défaut à notre égard, et non à l'égard de ceux qui nous entourent, devrait être notre point de départ. Parce que même si nous sommes zélés et enthousiastes, si nous sommes enflammés par le travail, le temps fait à l'être humain ce qu'il fait à l'eau. Nous allons regarder les conditions ici de Laodicée et de Philadelphie, et nous pourrons les contraster, et nous donner des points pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Nous avons une tendance naturelle. C'est automatique. C'est aussi simple que la loi de la physique. Si nous n'appliquons pas de gaz, le zèle pour nous, tout comme l'eau lorsque vous éteignez le chauffage, commence à refroidir. Parfois elle refroidit vite, parfois elle refroidit lentement. Ce matin, en arrivant au bureau, j'ai constaté que quelqu'un avait laissé la cafetière à pompe à l'étage. C'est comme une carafe. Elle est entièrement encastrée et contient l'heure d'hier, ce qui est utile. Je me suis demandé si j'allais faire quelque chose, parce que j'ai du café instantané que je ferai le matin si je viens au bureau. Et je me suis dit, vous savez quoi? Je vais juste utiliser cela. Ça va probablement être dégueulasse, mais c'est déjà fait, et je veux juste un médicament à base de café. J'ai pompé le café et il était encore chaud. Les choses peuvent rester chaudes pendant longtemps. Mais si j'étais revenu à cette carafe un jour plus tard, elle ne l'aurait pas été. D'accord. Voilà pour la configuration. Le message n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Mais il est vraiment important parce que si nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur ce que nous devrions examiner, développer et faire croître, nous pouvons nous assurer que nous ne retombons pas dans l'état d'esprit laodicéen parce qu'il essaie toujours de nous ramener en arrière. Allons au chapitre 3 de l'Apocalypse. Lisez le passage. Chapitre 3 de l'Apocalypse. Descendez au verset 14. Nous lirons l'ensemble du récit pour le Laodicée, et nous ferons de même pour Philadelphie un peu plus tard. Mais commençons ici, au verset 14 d'Apocalypse 3. Voici ce que dit l'ange de l'église des Laodicéens, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que vous soyez froid ou chaud, car alors ou alors, parce que vous êtes tiède, ni froid ni chaud, je vous vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis que je suis riche et comblé de biens, et que je n'ai besoin de rien. Non, ce n'est pas que tu sois malheureux. C'est une description et c'est un parce que. Parce que tu dis que je suis riche et que je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien, à cause de cela, toi, moi, nous tous, selon l'orientation que nous donnons à notre santé spirituelle, nous sommes misérables et malheureux, pauvres, aveugles et nus. Ce n'est pas une très bonne description de l'ère ecclésiastique, une période dont vous et moi faisons partie. Et puis des conseils. Je vous conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que vous soyez riches, et des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse pas, et de vous oindre Dieu, afin que vous voyiez. Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les chasse. Soyez donc zélés et repentez-vous. C'est l'action corrective sur les conditions que nous venons de voir, et c'est là que l'onction des yeux entre dans les détails de la seconde moitié. Il est utile pour nous de lire. Tous ceux que j'aime, je les reprends, je les chasse, soyez zélés et repentez-vous. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. J'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Cela fait peut-être des années que vous ne l'avez pas lu. Si vous êtes sorti d'une écharde, vous l'avez étudié, mais cela fait peut-être des années que vous n'avez pas lu le récit en entier, d'un bout à l'autre. À celui qui vaincra, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Versets 14 à 22. Ces huit versets sont donc pleins de sens, pleins de leçons, de corrections, d'exhortations, de paramètres, et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Nous n'allons pas examiner l'action corrective, parce qu'à bien des égards, nous avons fait l'action corrective pour en arriver là. Nous avons franchi ces étapes. Supposons que vous sortiez du monde, il vous a fallu défaire la pensée pour pouvoir dire « Non, je vais m'adresser à cette petite organisation de l'Ohio, qui rayonne dans le monde entier, mais elle est minuscule comparée à ces gros, gros groupes dissidents. » Mais en les parcourant, souvenez-vous, que ce soit pour penser à quelqu'un d'autre, mais aussi pour le reste du sermon, essayez de vous imaginer parce que c'est la nature du Laodicéen. C'est. Je l'ai déjà fait, et nous le faisons tous. Nous pensons, voici les paramètres de Laodicée. Eh bien, si je me glisse dans ces paramètres, alors j'ai tous ces paramètres, je n'ai besoin de rien, je suis malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la tiédeur. Vous pouvez commencer par penser que vous vous en sortez bien, et vous savez quoi? Puis vous perdez une chaussure. Puis une autre chaussure, et les vêtements commencent à tomber parce qu'on ne voit plus rien. Cela prend du temps. Vos yeux ne sont pas immédiatement opaques. Ils peuvent s'assombrir, mais n'oubliez pas que vous vous infligez vous-même ce phénomène. Toutes ces conditions que nous traversons et que nous regardons d'une manière un peu différente de ce que nous avons pu faire auparavant, sont toutes auto-infligées. Toute personne qui vit ces conditions choisit en fait ces conditions paragraphe une action. Le premier, tiède. Tiède. J'ai dit que ce café était chaud, mais il serait probablement plus juste de le décrire comme tiède, et après le passage au micro-ondes, qui en a empiré le goût, il était chaud. Mais en l'espace d'une soixantaine de secondes, Cette tasse avait disparu et j'étais prêt à partir. Mais oui, c'est la nature, et le café est un excellent exemple de quelque chose qui n'est tout simplement pas bon lorsqu'il est médiocre et tiède. Vous le prenez, vous le faites bien froid, et vous obtenez une infusion froide, c'est parfait. Il est bien chaud. Une bonne tasse de café est chaude. La partie centrale, pas tellement. Pas spécialement avec le café. Revenez quelques pages en arrière, probablement juste une, ou si vous êtes là, au chapitre 2 de l'Apocalypse. Tiède. C'est le terme qui m'a le plus éclairé en tant que scientifique, parce que les choses mettent du temps à perdre leur chaleur, et selon ce que la substance fait, la nature de ce qu'elle est, elles perdent leur chaleur à des vitesses différentes. Ainsi, selon qui vous êtes, qui je suis, comment nous sommes faits, notre température peut se dissiper rapidement ou plus lentement, mais toujours elle se dissipera si vous n'ajoutez pas plus de chaleur. Apocalypse chapitre 2, nous allons commencer au verset 1. Verset 1. Excusez-moi, sous l'église, sont les anges de l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de remonter très loin pour voir cette action, ce qui se passe au début de l'ère ecclésiastique. Ces choses disent, celui qui tient sept cierges, des étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Verset 2, je connais tes œuvres, il dit donc que tu travaillais, que tu as travaillé, que tu as été patient, que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as essayé de dire qu'ils étaient des apôtres qui ne l'étaient pas, et que tu as trouvé qu'ils étaient des menteurs. Il y avait de faux apôtres à cette époque. Et ils ont travaillé et résisté pour mon nom. Verset 3, j'ai travaillé et je n'ai pas faibli. Verset 4, cependant, j'ai quelque chose à te reprocher. Ainsi, contrairement à la Odyssée, où il n'y avait que des mauvaises nouvelles, ou à Philadelphie, où il n'y avait que des bonnes nouvelles, Éphèse avait un mélange, comme la plupart des autres époques. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi parce que tu as quitté ton premier amour. Vous souvenez-vous que le fait d'être né dans l'Église n'a pas d'importance, parce qu'il y a un moment où vous prenez la décision et pensez que je vais m'engager dans cette voie, que c'est le bon mode de vie. Ou si vous avez été appelé au moment où le déclic s'est produit, vous vous dites, c'est génial, je vais le dire à tout le monde. Je vais le dire à mon employeur, à mon conjoint, à mes parents, à, très vite, vous vous rendez compte que je ne vais le dire à personne, parce que je vois quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Pourquoi dois-je voir cela? C'est passionnant. J'ai la vérité. Je comprends, je sais comment fonctionne l'univers. C'est le premier amour. Continuons, verset 5. Souvenez-vous donc d'où vous êtes tombés, et repentez-vous, et faites les premières œuvres. Revenez à ce premier zèle, à cette première excitation, sinon je viendrai rapidement enlever votre chandelier de la place, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, si vous ne revenez pas à ce zèle, à ce premier amour qui nous aurait gardé chaud. Quand nous avons commencé, nous étions chauds, nous étions en feu, nous étions excités, et c'était presque écrasant. Vous étiez prêt à faire n'importe quoi. Je me souviens, et je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, que j'ai commencé à venir dans le haillon, je faisais l'aller-retour depuis Toronto les week-ends, et je me suis porté volontaire pour aider ici, et à un certain moment, M. Peck a proposé de m'embaucher, et je me souviens être retourné à Toronto et avoir dit que j'allais donner mon préavis, et j'étais au milieu d'un projet vraiment important dont je devais me défaire, et ils ont commencé à me jeter de l'argent pour me dire, « Non, vous devriez rester, vous devriez rester. » Je me souviens de mon retour, et je parlais à M. Pack, et peut-être à quelques autres personnes ici à l'époque, et j'avais quoi, 26 ans, Et j'ai dit, oui, à moins qu'il n'inscrive le salut dans mon contrat, je n'y retournerai pas. En y repensant, je me dis que c'est adorable, mais j'étais contente à l'époque, parce qu'il continuait à me donner de l'argent, mais j'étais en feu. Rien n'allait changer ce que j'allais faire. Mon premier amour, vous pourriez tous le raconter vous-même, parce que ce premier amour vous garde chaud, parce que rappelez-vous, les choses se refroidissent, elles passent à ce stade tiède, où est la limite? C'est la partie difficile du christianisme, nous devons rester chaud, pas vraiment chaud, pas presque chaud, mais chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Si vous me demandez ce qui est chaud, je vous répondrai tout ce qui dépasse les 72 degrés. Si vous demandez à ma femme ce qui est chaud, elle vous répondra tout ce qui dépasse les 150 degrés. Le chaud est relatif, c'est-à-dire que chacun d'entre nous trouvera le chaud et le froid à un degré relativement différent, dans un endroit différent, mais le chaud est chaud pour cette personne. Allez à Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Et nous commencerons au verset 9. Matthieu 24. Et le verset 9. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 11. Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes, qui séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu d'un grand nombre deviendra tiède, se refroidira, s'éteindra. C'est là que la tiédeur cesse d'être tiède. La tiédeur se termine par la disparition de l'Esprit de Dieu. À partir de là, il n'y a pas de retour possible. Nous sommes gelés, nous sommes morts. Beaucoup se refroidiront. C'est pourquoi si nous restons stagnants dans notre vie, si nous nous contentons de passer à travers, je passe à travers la chrétienté, je profite de ma vie, tout va bien, nous nous refroidissons. Nous nous refroidissons automatiquement. Peut-être pas rapidement, mais nous nous refroidissons avec l'intention d'avoir froid. C'est un endroit effrayant. C'est pourquoi Dieu dit, « Je ne veux pas que vous soyez tiède. » Vous devez vous concentrer sur la chaleur. Ramenez-le, ramenez votre premier amour, Éphèse, parce que je sais que si vous continuez à le laisser glisser, vous allez vous refroidir. Comme il est dit au verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui est sauvé, sera sauvé. » Nous devons continuer à tiser les braises et à les faire renaître, car naturellement, à notre époque surtout, et contrairement aux époques précédentes, il était plus difficile de rester tiède et, dans une certaine mesure, c'était presque comme un interrupteur. Vous étiez chaud parce que vous fuyiez l'Église catholique qui essayait de vous tuer, ou vous étiez froid parce que vous aviez abandonné. Nous avons l'occasion de vivre ce mode de vie intermédiaire où la plupart de nos vies ne sont pas si difficiles. Nous avons des épreuves et des tribulations, et nous traversons des choses, oui, mais il est vraiment facile de maintenir le thermostat à 72 degrés, où l'on peut porter des shorts, se détendre et tout, c'est juste un peu agréable. C'est donc dangereux pour nous. Beaucoup plus dangereux qu'à d'autres époques, car soit vous étiez chrétien, ce qui pouvait signifier la mort, soit vous avez tout abandonné, plus difficilement pour rester au chaud. Passons à Tite 2. Que faisons-nous? Nous couvrons une partie de ce qu'il faut faire au fur et à mesure que nous avançons, mais la plus grande partie de ce que, au fur et à mesure que vous tournez, la plus grande partie de ce que nous voyons ici, c'est de regarder la condition et d'essayer de nous concentrer et de travailler à avoir le contraire de cette condition. Nous ferons quelques-uns de ces « Que faites-vous ?» Tite chapitre 2, lisez-en un ici. Un verset, le verset 14. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même, Christ, Dans le verset précédent, lisons le verset 13 pour situer le contexte, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Rappelez-vous, c'est ce qui a provoqué le refroidissement de ces gens. Et de purifier pour lui-même un peuple particulier. Pourquoi? Parce que nous sommes zélés. Nous sommes enflammés pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, si nous ne voulons pas être tièdes, faisons de bonnes œuvres. Soyez enthousiastes pour elles, et c'est un sermon outre en soi sur ce que sont les bonnes œuvres, c'est-à-dire servir ou aider ou soutenir l'œuvre, s'enthousiasmer pour prier et étudier toutes les œuvres du christianisme. Donc, si vous voulez rester au chaud et devenir chaud et arrêter de rester au chaud, alors effectuons des travaux sur le feu. Nous sommes en feu. C'est ce que cela signifie. C'est l'expression, on entend quelqu'un dans son premier amour. Alors cela, c'est tiède. Le deuxième, c'est un peu plus une phrase ici, riche et croissant en bien et n'ayant besoin de rien. Riche, riche, riche en bien et ne manquant de rien. Allons à Luc 12, Luc chapitre 12, et regardons le verset 16, commençons au verset 16, Luc 12, verset 16, et il leur dit une parabole, en disant. Verset 16. Disant, la terre d'un homme riche produisait beaucoup. Il se dit alors, que dois-je faire? Je n'ai pas de place pour distribuer mes fruits. Et il dit, voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. J'y déposerai tous mes biens et tous mes fruits, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve depuis de nombreuses années. Prenez vos aises. Restez au chaud. Détendez-vous. La vie est belle. Prenez vos aises, mangez, buvez et soyez joyeux. Verset 20, Dieu lui dit, insensé. Cette nuit, on te demandera ton âme, et alors quelles seront les choses ou celles que tu auras fournies. Au verset 21, il en est de même de celui qui s'amasse des trésors. Je suis riche. Je me suis constitué un trésor. Je n'ai besoin de rien. Dans la suite du verset, et qui n'est pas riche à l'égard de Dieu. Nous pouvons donc être riches, ce n'est pas mal d'être riche. C'est juste que ce n'est pas riche pour nous, de nous préoccuper de l'argent et des soucis, au lieu d'être riche envers Dieu. Son travail, le soutien de ceux qui sont dans son Église. Son disciple lui a donc dit au verset 22, « C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous soucier de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ces choses. Nous pouvons être stupides, mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ou d'avoir des pensées anxieuses, c'est ce que le mot signifie, des pensées. Ce que tu mangeras pour ton corps et ce dont tu te vêtiras, car la vie est plus que la viande et le corps est plus que le vêtement. Dieu fait le tri. Soyez riches à l'égard de Dieu, concentrez-vous sur Dieu, mettez vos trésors là, pas pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous mettons des trésors pour nous-mêmes, nous disons, vous savez quoi, si quelque chose va mal, je vais m'en occuper moi-même. Je vais me concentrer sur moi-même. C'est pourquoi le bien en commun est une doctrine incroyablement puissante, parce que Dieu dit, non, je ne veux pas que tu aies un pécule. Oui, ayez un compte d'épargne. Vivez votre vie et utilisez votre maison et votre voiture. Lisez l'article bien en commun si vous pensez que cela signifie renoncer à tout, ce n'est pas le cas. Cela signifie qu'il faut renoncer à l'excédent. Mais ce que fait l'article bien en commun, c'est se débarrasser de l'excédent. Nous ne pouvons donc pas dire que si nous obéissons à l'article bien en commun, Ce verset de l'Apocalypse pour la Odyssée ne s'applique pas à nous parce que nous ne sommes pas riches. Nous n'avons pas de parachute doré. Nous l'avons vu lorsque nous avons prouvé qu'il s'agissait de l'Église de Dieu, et que nous avons dit, « Vous savez quoi, toutes ces choses que je vais faire, s'ils n'écrivent pas le salut dans le contrat, je vais aller dans le sud. » Nous l'avons prouvé à l'époque. Il n'y a rien de tel que de ne pas prouver quelque chose. Donc, pour continuer, Dieu s'occupera de nous. Dieu prendra soin de nous. Nous avons ses paramètres. Nous avons abandonné. Nous nous sommes éloignés de certaines choses parce que nous avons dit, « Non, ma vie consiste à être riche envers Dieu. » Et si vous avez une fenêtre sur l'un ou l'autre des groupes dissidents, vous verrez que ce n'est pas le point de vue. Indépendamment de la communauté, ce n'est pas le point de vue. C'est une atmosphère différente. L'argent est une chose importante. Nous devons donner la priorité à la richesse spirituelle plutôt qu'à la richesse matérielle. Et nous le faisons en nous regardant comme nous le faisons aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous commençons à voir, « Ok, j'ai des choses, vous savez, Dieu, je ne suis pas riche monétairement, alors vous savez quoi, j'ai besoin de choses, à la fois physiquement et spirituellement. » Et lorsque nous nous regardons, nous nous examinons. Nous disons, « Ah, c'est là que je manque. C'est là que je suis spirituellement faible. C'est là que j'ai besoin d'aide. » Nous nous tournons donc vers notre Père, en comprenant qu'il est la clé qui nous fortifie pour que nous ne tombions pas dans cet état d'esprit. Parce que lorsque nous n'avons besoin de rien, il est facile de rester au chaud. Il suffit de se laisser porter. Nous ne pouvons pas nous laisser réchauffer, mes frères. Et plus longtemps vous avez été, j'ai été dans l'Église de Dieu, plus une attitude peut se développer. Ce n'est pas, vous ne vous promenez pas, vous allez. Ce n'est pas votre température. On ne se promène pas en se disant, waouh, regardez cela. Je suis à quelques degrés au-dessus de 98,6. J'ai juste un peu chaud. Non, c'est notre concentration, notre attitude. Nous commençons à penser que nous pouvons laisser l'amertume, ou que nous pouvons laisser des choses stupides nous empêcher d'oublier pourquoi nous sommes venus à ce mode de vie, pourquoi nous avons choisi de marcher sur ce chemin, pourquoi nous devons nous appuyer sur Dieu et non sur nous-mêmes. Il était si riche, si bien pourvu de bien, qu'il n'avait besoin de rien. Encore une fois, ce sont des attitudes dans lesquelles nous pouvons glisser. Le prochain mot, misérable, semble en fait pire que la définition du mot. En grec, cela signifie misérable, ce qui n'est pas très agréable, mais endurer une épreuve, porter un poids. C'est un peu comme si vous voyiez quelqu'un, oh là là, s'il a l'air misérable, c'est qu'il endure une épreuve, qu'il porte un poids. On se dit, on a le cœur qui bat pour eux. Vous vous dites, oh, pourquoi traverse-t-elle cette dure épreuve? Mais rappelez-vous, il est dit au tout début que ce sont des choses que l'on s'inflige à soi-même. Les gens choisissent d'avoir l'air malheureux, d'avoir des épreuves, de porter le poids parce que dans le verset précédent, rappelez-vous, parce que je dis que je suis riche et que je n'ai besoin de rien, que je n'ai pas besoin de Dieu. Alors je suis malheureux et j'ai des épreuves, je porte ce poids. Allez au psaume 38. Vous avez vu que le mot « misérable » apparaît, mais « misérable » signifie quelque chose d'autre. Donc le psaume 38. Psaume 38, nous commencerons au verset 3. Le psaume 38, au verset 3, se lit comme suit, « À cause de ta colère, ma chair n'est plus saine. À cause de mon péché, mes os n'ont plus de repos. Il n'y a pas de repos dans mes os à cause de mon péché. Il n'y a pas de santé dans ma chair, à cause de ta colère. C'est Dieu qui parle ici, qui parle à Dieu. Pourquoi Dieu est-il en colère? Il n'y a pas de repos dans mes os à cause de mon péché. Quand nous péchons, nous n'obéissons pas à Dieu. Cela inclut son gouvernement, son corps, et tous les aspects de celui-ci. Parce que vous pouvez être l'Ecclésia, les appeler, quelque chose de très fondamental. Ceux qui sont assis là, dans les échardes, sont convertis. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils filtrent, mais avec le temps, ils se refroidissent et n'obéissent plus à Dieu parce qu'ils sont assis dans une organisation qui n'a pas l'autorité de Dieu. Et si vous obéissez à quelqu'un au-dessus de vous qui n'a pas l'autorité de Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'obéissez pas au Christ. Vous ne comprenez pas son gouvernement. À cause de mon péché, il n'y a pas de repos dans mes os. Et au verset 4, car mes iniquités pèsent sur ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop lourdes pour moi. Auto-infligées. Mes plaies puent et se corrompent à cause de ma folie. Je suis troublé. Je suis très abattu, et je me lamente tout le jour. Ils ne sont pas heureux. Cela ne veut pas dire, c'est très drôle, je vois toujours cela, surtout si vous avez été élevé dans l'Église et que vous voyez et que vous commencez à sortir dans le monde. Et pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'il y a une ligne noire et blanche entre être dans l'Église et être dans le monde. Si vous êtes dans l'Église, nous nous aimons tous. On se fait des câlins, on se sourit et on se dit « Kumbaya ». Mais tous ces gens dans le monde sont mauvais. Et cela se développe quand on est jeune. Les parents doivent être très prudents et s'assurer qu'ils montrent clairement qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils font de bonnes choses. Ils font aussi des choses mauvaises. C'est un mélange. Quand vous rencontrez des gens, parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui était au lycée dans la vingtaine, et qu'ils vont se dire qu'en fait, ce sont des gens très gentils. Oui, bien sûr. Tu t'attendais à ce qu'ils t'attaquent avec un couteau, comme si la société s'effondrait. Mais de la même manière, quand vous regardez ces versets, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas comme si ceux qui sont dans les échardes se promenaient tout le temps en étant malheureux et accablés. Non, ils ont leurs activités sociales et leurs événements, mais Dieu ne les aide pas. En fin de compte, ils endurent des épreuves qui ne sont peut-être pas inspirées par lui parce qu'ils endurent des épreuves en dehors de la protection de la véritable Église de Dieu. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14 et verset 12. Le verset 12 dit, « Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais sa fin, ce sont les voies de la mort. » Il est dit à plusieurs reprises dans différents versets, même en riant, « Le cœur est triste, et la fin de cette joie est le malheur, si nous suivons ce qui semble juste. » Cela ne signifie pas que nous ayons toujours l'air malheureux. Nous pouvons toujours sourire, mais il y a toujours un fardeau. Si nous comptons sur nos propres pas, notre propre chemin, notre propre compréhension, « Je suis riche et je n'ai besoin de rien », alors en fin de compte, peu importe le nombre de sourires ou de mondanité ou ceci ou cela, il y a un fardeau parce que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Matthieu 11. Nous sommes ici. Cela s'applique donc à nous d'une certaine manière, mais le danger pour les êtres humains à la fin de l'âge, avec toutes ces options de scission, n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 40 ans, lorsque la seule option d'être en dehors de l'Église était d'être en dehors de l'Église. Ce n'était pas, eh bien, vous savez quoi, je suis un peu chaud. Si vous êtes ici et que vous avez chaud, vous n'irez nulle part. C'est génial. Je suis tellement excité. Toutes ces choses, nous les apprenons et nous grandissons. Mais quand nous devenons plus tièdes, vous savez ce que les gens ont tendance à faire, parce que tout le monde fait cela. On gravite autour des gens, en termes de personnalité, d'amitié, qui ont une personnalité similaire, qui ont des intérêts similaires. C'est naturel. De la même manière que si nous nous laissons refroidir, nous graviterons vers des groupes qui partagent cette température. C'est le danger de notre époque. Ce n'était pas possible à d'autres époques. On ne pouvait pas aller ailleurs parce que j'aime United parce qu'ils sont très libéraux, et je peux être modéré ou LCG ou n'importe quel autre groupe dissident. Mais c'est là que le chemin nous mène en fin de compte. Tellement misérable, misérable. Sermon super positif aujourd'hui, n'est-ce pas? Misérable. En fait, celui-ci ne veut pas dire misérable. Cela signifie susciter la pitié. Méprisablement petit. Susciter la pitié. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste, chapitre 1, un seul verset. C'est simple. J'aurais probablement pu me contenter de le lire, mais vous vous êtes tous tournés vers lui. Donc, Ecclésiaste 1. Rappelez-vous, je ne le répéterai jamais assez, qu'il s'agit de conditions choisies. Ce sont des conditions choisies. Chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. Ce n'est pas parce que vous méritez la pitié que vous suscitez la pitié. Cela suscite la pitié parce que vous avez choisi le lourd fardeau et que la vie semble difficile. Vous voulez donc de la pitié parce que vous vous sentez bien quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas grave. Un petit enfant se blesse et on lui dit « Non, cela va aller » et il se sent mieux. On lui fait un câlin. S'il ne le mérite pas, s'il cherche à attirer l'attention, il ne s'agit plus de se relever, c'est normal. Non. Comme nous aimons le dire, remettez-vous sur vos roues. S'il aime les voitures, alors, si vous tombez, remontez sur vos roues. C'est différent. Psaume 69. Au fur et à mesure que nous les parcourons, vous et moi verrons des aspects de ces caractéristiques qui sont en nous, parce qu'elles doivent l'être. C'est l'âge. Il s'agit simplement de savoir à quel point nous sommes chauds. Si nous sommes parfaits, félicitations, bravo. Pour les autres, nous sommes un peu loin de la perfection. Il y aura donc ces éléments en nous au fur et à mesure que nous les traverserons. Dans quelle mesure, certains pourraient être plus élevés. Certaines personnes se mettent facilement en colère, d'autres non. Tout dépend de notre personnalité et de la place qu'occupent ces caractéristiques en nous. Psaume 69, verset 19. Le verset 19 se lit comme suit, « Tu as connu mon opprobre, ma honte et mon déshonneur. Tu connais mon opprobre, ma honte et mon déshonneur, mes adversaires sont tous devant toi. Mes adversaires sont tous devant toi. » Verset 20. L'opprobre m'a brisé le cœur, et je suis dans l'accablement. Et quand cela arrive, quand j'ai un poids ou un fardeau, je cherche quelqu'un pour avoir pitié. Dans ce cas, probablement à juste titre. Mais il n'y en avait pas, et je cherchais des consolateurs, et je n'en trouvais pas. Si nous recherchons la pitié à cause d'une caractéristique, d'un état ou d'une température que nous nous sommes permis d'atteindre, nous ne trouverons pas de réconfort. Nous ne trouverons pas de joie. Nous n'en trouverons tout simplement pas. La situation perdurera. Encore une fois, cela ne veut pas dire que vous êtes toujours malheureux. Cela ne veut pas dire qu'on est toujours misérable, mais il y aura un fardeau lorsque nous n'obéirons pas à Dieu. C'est la nature même de la chose. si nous ne sommes pas sous son gouvernement, si nous ne voyons pas ce gouvernement en action. Nous tous, depuis mon bureau jusqu'en bas, bien sûr, Christ est le chef, M. Pack est sous lui. Nous devons tous être guidés par ce gouvernement pour comprendre qu'il s'agit du corps du Christ. En dehors de lui, Ecclésia, oui, mais pas à l'intérieur du corps. C'était donc la misère, la pauvreté. Nous devons donc être pauvres. Nous verrons quelques versets ici qui le montrent, mais qu'est-ce que cela veut dire par pauvre? Eh bien, on ne peut pas être riche et pauvre. Si vous dites « je suis riche », il ne s'agit pas d'une pauvreté fiscale. Mais si vous regardez autour de vous, et cela peut arriver dans les congrégations locales, cela peut arriver ici, cela arrive surtout dans les scissions, la pauvreté commence à se manifester dans les choses qui manquent, dans les choses qui sont spirituellement insuffisantes. Habituellement, la première indication de cela, de la pauvreté spirituelle, non pas d'être pauvre en esprit, mais de la pauvreté spirituelle, commence par les normes. Les normes commencent à baisser, soit, personnellement, des choses que vous pensez, vous savez quoi? Je peux m'en sortir avec cela. C'est limite. Oh, je sais que l'Église dit que nous devrions être modérés, que nous devrions avoir l'air convenable et que nous devrions être corrects, mais vous savez quoi? Ah, les gens ne vont pas me voir. Ce n'est pas grave. Cette jupe est un peu trop courte, le pantalon est un peu trop serré. Quoi qu'il en soit, ces normes commencent à tomber. Il ne s'agit que de la tenue vestimentaire. On peut avoir des coiffures et des choses comme cela. Il y a tellement de choses que l'on peut mettre dans les normes, être en avance et à l'heure pour les services, s'assurer que les choses se déroulent comme le veut la politique pour les services, rechercher des conseils. Il y a tant de choses où les normes commencent à baisser et où l'on devient spirituellement pauvre, non pas pauvre en esprit, mais spirituellement pauvre, par rapport aux choses dont nous devrions être riches. Car n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'ils se disent riches qu'ils le sont fiscalement. 2 Corinthiens, chapitre 8, c'est le mauvais type de pauvre. Mais comme je l'ai dit, il y a un bon type de pauvre. 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset 8, Christ est passé par tout le processus. Le 8e verset dit, « Je ne parle pas par commandement, mais à l'occasion de l'avance des autres, pour prouver la sincérité de votre amour. » 2 Corinthiens, chapitre 8, et maintenant le verset 9, « Vous connaissez en effet la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien que riche, esprit, à cause de vous, il s'est fait pauvre en esprit. Il s'est abaissé, il a été humble. Parce que cela lui a permis d'accéder à Dieu, et que par sa pauvreté, pas par l'argent, par sa pauvreté, il a pu être riche, il a pu avoir du pouvoir, il a pu avoir accès à Dieu. Ainsi, nous nous laissons devenir pauvres en esprit, ce qui signifie humbler tous les aspects qui éliminent notre fierté, notre enthousiasme. Luc, chapitre 6. Un autre exemple. Tous ces exemples se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que nous avançons dans ce chapitre, « pauvre » signifie en fait s'accroupir comme un mendiant ou un pompeur. Si vous êtes misérable, malheureux, dans ce cas, « pauvre », ce sont tous des actes qui attirent l'attention sur nous. Ce sont tous des actes qui font que les gens nous regardent parce que j'essaie d'avoir de la pitié, j'essaie d'avoir l'air pauvre. S'accroupir comme un mendiant. Misérable. Vous voulez attirer l'attention sur vous parce que, bien sûr, c'est ce que vous faites. Vous remplacez simplement Dieu, je suis riche et je n'ai besoin de rien, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Ainsi, Ils peuvent me regarder et voir à quel point ma vie est difficile et je me bats et je suis si incroyable pour endurer parce que vous comptez sur vous-même. Luc, chapitre 6, verset 19. Luc, chapitre 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher. Car la vertu sortait de lui et il les guérissait tous. Verset 20. Il leva les yeux sur un disciple et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Nous voulons être pauvres, mes frères, et non pas pauvres de manière que les gens se concentrent sur nous, qu'ils nous regardent, qu'ils disent, Oh, regardez-le. Il est si humble, alors qu'il est faux. Il est juste. Ce n'est pas le bon type de pauvreté. D'accord, c'est un peu court. Le prochain est aveugle. Aveugle. Le mot grec signifie littéralement aveugle ou opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir à travers. Ce qui est fascinant, et c'est, encore une fois, que tous ces mots sont liés à une mauvaise attitude similaire, à l'orgueil et à la suffisance, c'est que la racine du mot signifie ici enveloppé de fumée. Si c'est au sens figuré, c'est gonflé de suffisance. Se gonfler de suffisance, être tellement impressionné par soi-même. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je passe par des choses difficiles, mais regardez-moi. Je suis aveugle à souhait parce que je ne vois pas tous les autres aspects de mon caractère qui sont mauvais et pourquoi cet orgueil, parce que rappelez-vous, l'orgueil nous aveugle. L'orgueil nous empêche d'être connectés à Dieu. L'humilité, cette pauvreté d'esprit, nous relie, nous permet d'obtenir de l'aide, nous permet de voir. Beaucoup de ces conditions existent à cause de la cécité. Si nous n'étions pas aveugles, nous pourrions nous regarder dans un miroir et dire, « Vous savez quoi, je ne fais pas tout correctement. » C'est là que nous avons tous un avantage. Nous ne devrions pas l'être, mais si nous le sommes, il est difficile de s'en sortir. Il faut alors se ressaisir, oindre ses yeux, prendre cette sève oculaire, éclaircir sa vision, mais cela devrait moins affecter le peuple de Dieu dans l'Église de Dieu restaurée, dans sa véritable Église. Non pas que notre vision soit parfaite. Non, non, rappelez-vous, c'est une échelle. Je porte maintenant des lunettes que je n'avais pas l'habitude de porter. Avec le temps, mes yeux ne font plus tout à fait ce qu'ils faisaient avant. Ma vision n'est plus aussi bonne qu'avant. Je vois de moins en moins bien et je ne peux plus voir, et finalement j'aurai quelque chose que vous avez à un certain âge et vous lisez votre Bible comme cela avec ces bouteilles très épaisses que c'est comme cela que vous pouvez voir parce que vous devenez aveugle. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas. Je suppose que cela peut arriver. On peut être aveuglé, mais en général, surtout sur le plan spirituel, cela s'estompe comme la température. Lorsque votre température se refroidit, votre cécité se dissipe, votre vision se dissipe aussi. C'est presque comme un lien. Notre vision est alimentée par notre zèle. Lorsque notre zèle, notre chaleur se refroidit, notre vision se dissipe. On peut arriver à un point où l'on est aveugle. Allez à la deuxième partie de l'Épître aux Corinthiens. D'accord, 2 Corinthiens 4. Nous allons en lire un autre ici, le verset 1, chapitre 4 de la deuxième Épître aux Corinthiens. C'est pourquoi, puisque nous avons ce ministère, comme nous avons reçu la miséricorde, nous ne faiblissons pas, mais nous avons renoncé aux choses cachées de la malhonnêteté, ne marchant pas dans la ruse, et ne maniant pas la parole de Dieu avec tromperie. Nous sommes honnêtes avec le livre. Mais en manifestant la vérité et en nous recommandant à la conscience de chacun devant Dieu. 3e verset. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde, Parce que c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi nous avons dû oindre vos yeux pour qu'il voie. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est à l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Frères et sœurs, Satan veut vous rendre aveugle. S'il pouvait vous arracher les yeux et vous rendre instantanément aveugle, il le ferait, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut qu'obscurcir nos yeux au fil du temps. Lorsque nous devenons complaisants, encore une fois, lorsque nous nous réchauffons, lorsque nous devenons orgueilleux, satisfaits de nous-mêmes, alors nous nous refroidissons, parce que nous commençons à compter sur nous-mêmes. Le christianisme est étonnant. Les aspects qui se rejoignent et qui reviennent généralement à ces idées complexes, pauvres, aveugles, misérables, tous ces mots et ces descriptions se ramènent souvent à un concept très simple. En l'occurrence, il s'agit de cesser de compter sur nous-mêmes. Arrêter de penser que nous pouvons faire ce chemin, que nous pouvons le traverser, que nous pouvons nous frayer un chemin jusqu'au royaume de Dieu. C'est ce que signifie être laodicéen. Au lieu de savoir, non, 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 je n'ai pas ce pouvoir. Si nous ne sommes pas aveugles, même si nous avons un peu de vision, nous pouvons commencer à voir les choses que nous devons voir pour être prêts, mais à mesure que cette vision se dissipe, si vous avez déjà essayé de vous habiller dans le noir, dans une pièce très sombre, en essayant de vous habiller ou de voir à quoi ressemblent les choses, et que vous entrez dans un endroit et que vous vous dites « Waouh, ce n'est pas la cravate à laquelle elle ressemblait quand j'étais dans le placard, ou quoi que ce soit de ce genre, ou si vous êtes un homme, c'est difficile, pardonnez-moi, mesdames. » Les femmes se disent « Il va se plaindre des vêtements et c'est un homme, mais c'est vraiment un grand procès. » Pour les hommes, nous avons des chaussettes noires et des chaussettes marines, qui se ressemblent tellement. Et parfois, on se trompe. On ne s'en aperçoit que lorsqu'on s'assoit au bureau, qu'on met la jambe de son pantalon bleu marine par-dessus l'autre et qu'on se dit « c'est du noir ». La lutte est réelle. Mais lorsque la lumière est vive, nous avons une merveilleuse lampe fluorescente à diode électroluminescente, comme si le soleil était dans notre placard. Je m'approche d'elle, ou je prends mon téléphone, parce qu'il a aussi une lumière très forte, et vous vous dites, « D'accord, c'est un peu bleu. » Non, celui-là est noir. Parce que quand on a la lumière, on peut voir. Mais si nos yeux sont faibles ou s'il fait sombre, parce que c'est ce qui se passe quand on devient aveugle à mesure que la nuit tombe, on perd cette capacité à voir. Et c'est ce qui conduit naturellement au dernier et au plus apparent des problèmes liés à la nudité. On ne sort pas nu de chez soi, sauf si l'on vit dans une colonie de nudistes. On ne sort donc pas nu de chez soi. Mais encore une fois, comme pour toutes les autres choses dont nous parlons ici, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. On ne passe pas de l'état habillé à l'état nu. C'est comme si on se disait, « Oh, c'est là. Tous mes vêtements ont disparu. » Non, on perd des vêtements. Ce n'est pas tant le fait d'être nu qui compte. Si vous vous promenez nu, c'est une question de nudité. Mais en tant que chrétien, le fait d'être nu, ce n'est pas tant que vous n'êtes pas habillé. C'est ce que vous ne portez pas. Ce n'est donc pas la nudité, en fait. Il s'agit de ce que vous n'avez pas mis pour porter ce que vous auriez dû porter. C'est ce qui vous rend nu, et il est difficile de voir ces choses à mettre. On peut oublier ou se tromper d'article quand on est aveugle, ce qui rend extrêmement difficile le fait de s'habiller et de mettre les bonnes choses en tant que chrétien. Allez à Job 29. Comme je l'ai dit, je veux prendre un angle un peu différent. Si vous voulez lire davantage, allez oindre vos yeux, il y a des signes laodicéens, des signes philadelphiens, et nous avons des articles sur ces sujets, mais je voulais prendre une approche légèrement différente. Job 29 et le verset 13. Encore une fois, la nudité n'est pas tant le fait d'être nu, c'est le fait de ne pas se souvenir de mettre ce que l'on devrait porter. Verset 13 de Job 29. Les bénédictions de celui. Verset 13. Les bénédictions de celui qui était prêt à périr sont venues sur moi, et elles ont fait chanter de joie le cœur de la veuve. Verset 14. J'ai revêtu la justice, et elle m'a habillé. Il ne s'agit pas de faire semblant de jouer la comédie. Non, non, elle m'a revêtu. Mon jugement était comme une robe dans un diadème. Pour s'habiller en tant que chrétien, il faut se vêtir de justice. Nous sommes revêtus de jugement. Allez à Éphésiens 6. C'est probablement l'évidence qui vous vient à l'esprit. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Le verset 11 dit, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. » Vous saviez où j'allais. L'armure de Dieu. Nous devons nous revêtir de certaines choses. Nous devons être revêtus de certains éléments. Il est dit ensuite que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres du monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Parce qu'en fin de compte, notre combat n'a rien à voir avec le fait d'être vêtu ou non. On peut parfaitement être nu si l'on se trouve dans le jardin d'Éden. C'était le cas. Mais en tant que spirituel, et je précise, dans le jardin d'Éden. Pas à l'époque moderne. Mais spirituellement, nous devons revêtir beaucoup de choses. Nous devons être prêts parce que nous luttons contre des choses bien plus intenses que s'il faisait un peu froid dehors et que vous ne portiez pas vos gants. Nous luttons contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours, et, après avoir tout fait, de tenir bon, de résister. Tenez-vous donc debout, verset 14, ayant vos reins saints de la vérité. Frères et sœurs, nous sommes la seule organisation sur la surface de la terre à comprendre la pleine vérité de Dieu. Sommes-nous encore en train de la comprendre? Oui. Les choses sont-elles encore claires dans les détails? Oui. Mais personne ne possède l'ensemble de la vérité que nous avons ici. Personne. N'importe où, dans les groupes dissidents, dans le monde, quoi qu'il en soit. Les bases de celui qui revient toujours. Qui est le seigneur des armées? Qui est le capitaine de l'armée? Les positions massives du Père et du Christ dans la Bible. Les deux. Saints de la vérité, ayant la cuirasse de la justice. Voyez où en était Job, c'est le même concept. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Ou des chaussures. Et surtout, ayez le bouclier de la foi, pour pouvoir éteindre les dards enflammés du méchant, et prenez le casque du salut. Ce sont des choses que nous revêtons. Si nous sommes laodicéens à l'extrême, ou profondément enracinés, il nous manque tous ces vêtements, tous ces éléments. C'est pourquoi cette nudité est si dangereuse. Et vous ne la voyez pas, parce que vous êtes aveugle. Et elle s'aggrave d'elle-même. Colossiens 3. Un peu plus de ce dont nous devons nous revêtir ici. Encore une fois, ces éléments manquent si nous sommes aveugles. Si nous laissons la condition laodicéenne nous envelopper, parce qu'elle nous tire, elle continuera à nous tirer. Plus vous vivez le christianisme, plus il est facile de devenir laxiste. Il est plus facile de se dire, c'est juste ce que je fais. C'est une sorte d'entrée et de sortie. C'est comme un hobby. Mais c'est ce que nous devons empêcher de se produire. Colossiens 3 et le verset 11. Le verset 11 dit, « Où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare ni scythe, ni lié ni libre, mais où Christ est tout et en tous. » Verset 12. « Revêtez-vous donc. » Les mêmes mots que Job. « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » C'est ce que nous devons revêtir. Des entrailles de miséricorde. C'est amusant de s'habiller ainsi le matin. Va chercher tes entrailles de miséricorde. Parfois, l'image visuelle n'est pas amusante. Mais, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, d'indulgence les uns envers les autres, de pardon, etc. Verset 14. Et par-dessus tout cela, mettez la charité. Ou l'amour, l'amour de Dieu. Qui est le lien de la perfection. C'est le lien qui unit tout. C'est la ceinture, si l'on peut dire, qui relie l'ensemble. Mais nous devons revêtir tous ces vêtements pour pouvoir vivre, marcher et agir en tant que chrétiens et pour pouvoir devenir Philadelphie. Mais vraiment, j'aurais pu sauter toutes ces étapes. J'aurais pu sauter chacun de ces points et nous n'aurions pas eu besoin de partir parce que c'est le même fil conducteur que nous voyons à travers tous ces points. L'autosuffisance, la focalisation sur soi, je ne veux rien dire, l'orgueil, la suffisance. Nous aurions pu nous arrêter au nom même de la Odyssée. Nous l'avons décomposé. Vous l'avez entendu dire de différentes manières et vous pouvez aller dans différentes directions. Vous avez entendu dire que c'est l'ère où le peuple juge, gouverne et décide. Il s'agit là d'un choix de définition, mais il y a en fait deux mots racines. L'un signifie laos, un peuple. C'est tout ce que cela signifie, un peuple. C'est différent, ce que je trouve intéressant, d'un autre mot grec qui parle de leur propre population. Ce mot signifie simplement un peuple en général. Si vous nous regardez tous, nous sommes d'ethnie, d'âge, de race, etc. différents. Nous sommes un peuple. Vous pouvez donc nous décrire comme un peuple. Vous pouvez décrire ceux qui se trouvent dans les scissions comme un peuple. Ce sont des peuples. Des populations différentes, qui ne vivent pas dans le même pays. Et c'est fascinant, si vous regardez le groupe dissident, vous avez tous ces petits groupes. Il ne s'agit donc pas vraiment d'un peuple dans un groupe, mais d'un peuple au sens général. L'autre mot est dique, D-I-K-E, comme digue. Il signifie simplement droit. C'est la justice. Le principe, une décision, une exécution, un jugement, une punition ou une vengeance, c'est ce qu'on traduit. C'est là que l'on voit que cela entre en jeu. Le peuple fait ce qu'il estime être juste. Ils établissent leurs propres principes, prennent leurs propres décisions et agissent en fonction de ces idées. Ils sont riches et n'ont besoin de rien parce qu'ils prennent leurs propres décisions. Ils peuvent décider eux-mêmes de ce qui est juste, des jugements à prendre, etc. car, d'une certaine manière, ils n'ont pas le choix de le faire. Leur choix pourrait être d'obéir à Dieu et de se soumettre à son gouvernement, mais comme ils ne le font pas, ils doivent prendre leurs propres décisions, faire leurs propres choix, parce qu'ils n'ont pas le gouvernement de Dieu sur eux, ni la structure et les bénédictions qui en découlent. Jérémie 10. Le point de vue de Dieu. C'est le point de vue de Dieu sur le fait que le peuple gouverne, juge et décide. Commençons par Jérémie, chapitre 10, verset 22. Le verset 22 dit, « Voici venir le bruit de la brute, un grand tumulte du pays du nord, pour faire des villes de Juda des ruines et un repaire de dragons. Verset 23. Seigneur, je sais que la voix de l'homme n'est pas en lui-même, que ce n'est pas l'homme qui marche qui dirige ses pas. Seigneur, corrige-moi par le jugement, non par la colère, si tu ne m'amènes pas au néant. Cela ne dépend pas de nous et ne devrait pas faire partie de nos pensées, car nous pouvons décider de le faire. Ce n'est pas à nous de guider ou de diriger nos pas. Lorsque nous décidons où nous devons être dans le corps du Christ, ce que nous devons faire sous le gouvernement de Dieu, qui doit superviser ceci, quelle décision, quelle décision? Peu importe de quoi il s'agit. Dans le contexte du christianisme, lorsque nous commençons à prendre sur nous et à regarder les autres, et non, ils le font mal, ils vivent mal le christianisme, ou le gouvernement de Dieu fait cela mal, ou le siège fait cela mal, ou quoi que ce soit. Nous disons, non, je suis presque sûr de pouvoir guider mes propres pas. Je suis sûr de pouvoir juger, gouverner et décider. Je suis sûr d'être riche et de n'avoir besoin de rien. Et ce que nous ne voyons pas, c'est que nous disons aussi, je suis nu, aveugle, misérable et pauvre, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes aveugles. Voilà donc la Odyssée. Cataloguez-la. Ne laissez pas ce sermon être l'un de ceux qui disent, d'accord, c'était intéressant. Nous avons abordé des points que je n'avais pas vus auparavant. Ce sont tous des éléments d'auto-examen que nous devons être capables de trouver parce que nous devrions trouver la plupart d'entre eux dans notre caractère à un certain degré. Peut-être que c'est juste un tout petit peu. C'est très bien. Mais cette infime quantité contrôle ou limite le degré de chaleur que nous pouvons atteindre. Et plus nous l'éliminons de notre identité, plus nous devenons chauds, plus enthousiastes, plus ailés, plus nous retournons à notre premier amour. Revenons à l'Apocalypse, chapitre 3, et lisons ce qui concerne Philadelphie. Chapitre 3, nous commencerons au verset 7. Nous ne couvrirons pas tous les versets de la même manière, mais nous ferons une lecture un peu plus rapide. Apocalypse 3, et le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne ferme, et qui ferme, et personne n'ouvre. Je connais vos œuvres. Voici, j'ai mis devant vous une porte ouverte, et personne ne peut la fermer, parce que vous avez un peu de force, que vous avez gardé ma parole, et que vous n'avez pas renié mon nom. Voici que je ferai de la synagogue de Satan, qui se dit juive et ne l'est pas, mais qui ment. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, pour qu'ils sachent que je t'ai aimé. Tout est positif. Parce que tu as gardé la parole de ma patience et que tu as gardé ma parole jusqu'au boutique, ce qui est fascinant, c'est presque exactement la même chose, vous avez très peu d'espace pour décrire les choses qu'ils ont faites, mais presque mot pour mot, la parole de ma patience, les mêmes mots à l'exception du qualificatif. Je vous garderai aussi de l'heure de la tentation, qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Voici, je viens vite, je vous retiens, vous avez. C'est un choix intéressant de mots, que personne. Prenez votre couronne. Celui qui vaincra, je le mettrai sur un oreiller dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai sur lui mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Beaucoup de. Là encore, beaucoup d'éléments, mais une répétition amusante. Nous avons terminé avec le nom de Laodicée, commençons par le nom de Philadelphie. C'est un nom facile. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Il signifie amour fraternel. Pas agapé. L'amour fraternel, le nom nous fait immédiatement penser, si différemment de la Odyssée, aux gens qui décident pour eux-mêmes, à l'aspect de l'orgueil, à l'autosatisfaction, mais le nom Philadelphie signifie immédiatement que nous ne nous regardons pas nous-mêmes. On ne peut pas avoir d'amour fraternel avec soi-même. Si c'est le cas, c'est bizarre. Vous vous regardez dans le miroir, vous êtes génial, mais vous avez besoin de vous regarder de l'extérieur pour pouvoir faire preuve d'amour fraternel. Il faut regarder les autres. Vous devez vous soucier des autres. Vous devez être en communion, servir et être avec d'autres membres du peuple de Dieu ou aimer les gens en général. Il n'est pas question d'amour fraternel, d'amour entre frères. Il y a des versets qui couvrent cela. Mais pour être philadelphiens, nous devons aimer les gens par ce que nous voyons, quand nous regardons le pompiste ou la personne qui passe à la caisse. S'il y a encore des pompistes, je n'en sais rien. Mais la personne qui passe à la caisse, un aigle géant, qui que ce soit, c'est un dieu futur que l'on voit là. Mais, bien sûr, entre nous, il doit y avoir de l'amour fraternel. Nous nous concentrons sur tous ceux qui nous entourent. Allez au psaume 133. Prouvons en un seul verset qu'il existe une véritable église. Pas définitivement, mais il y en a une, mais pas avec un seul verset. Mais ce verset, en gros, le résume, et je le trouve intéressant. Psaume 133. Commençons par le début. C'est l'un des chants de David. Verset 1. Voyez comme il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. Il est impossible d'habiter ensemble et d'être unis si l'on est dispersé dans des centaines d'organisations. Pour que ce verset s'applique, pour qu'il soit bon pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité, vous devez être dans un seul endroit avec un seul gouvernement de Dieu qui enseigne la vérité, qui a l'autorité de dire oui ou non sur des sujets. Vous ne pouvez pas transmettre cela à différentes organisations parce qu'il n'y a pas d'unité, il y a des enseignements différents, ils ne sont pas ensemble. Mais si vous êtes ensemble et que nous vivons dans l'unité, c'est agréable, c'est bien. Je vous fais tourner ici. Voyons un autre de ces points. Ayez un peu de force. Un peu de force. Frères et sœurs, vous et moi nous battons dans un ouragan à l'extérieur. Une tempête de neige ce week-end, mais un ouragan dans la vie parce qu'il nous pousse à être laodicéens, il nous pousse à être plus froids et nous devons nous battre contre cela. Le matérialisme, les sociétés complaisantes. Dans sa nature, elle prend, l'époque prend la société qui l'entoure, donc, bien sûr, les attitudes laodicéennes sont répandues dans la société d'aujourd'hui. C'est la détente, les vacances, et toutes ces choses. C'est pourquoi nous repoussons l'échéance. Allez à Zacharie 4. À première vue, quand vous lisez cela, vous pensez, oui, nous sommes assez petits. Zacharie, chapitre 4 et verset 5. 4 verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Sais-tu ce que sont ces choses ? Tous les aspects d'avant, les chandeliers et tout le reste. » J'ai dit, « Non, Seigneur. » Il lui répondit, « C'est la parole du Seigneur à Zorobabel, disant que ce n'est pas par la force. » N'oubliez pas de vous appuyer sur Dieu, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. C'est l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, qui revient à. C'est presque une astuce, c'est un peu de force, c'est un peu de dynamie, donc un peu de la puissance de Dieu va très loin pour ce que nous devons faire. Rappelez-vous, il a utilisé son pouvoir. Quelle quantité de puissance Dieu a-t-il utilisé lorsqu'il a créé l'univers ou quelle quantité de puissance doit-il utiliser lorsqu'il le plie et le ramène? Donc, avoir un peu de ce pouvoir, même si cela ne semble pas très grand, nous donne tellement de force, tellement de pouvoir pour faire des choses que nous ne pourrions même pas concevoir et ce pouvoir nous donne la capacité de continuer à aller de l'avant. Le verset parle également d'une porte ouverte. Frères et sœurs, nous continuons à travailler. Autant de temps que Dieu nous donne, nous continuons à avancer. Il nous donne un peu de force. La porte ne peut pas être fermée. Nous avons un peu de force. Pendant que nous effectuons le travail, nous faisons notre part et nous contribuons à l'assurer par nos dîmes et nos offrandes, par le collecte de fonds. L'une des choses qui nous enthousiasme cette année, c'est que nous allons suivre une double voie en matière de collecte de fonds. Nous parlerons à la fois de l'acte et de la collecte de fonds pour le travail. Lorsque vous entendrez cette promotion, vous penserez à deux choses. Je peux faire partie de cette petite force, de cette porte ouverte, et je peux envoyer des enfants dans un camp, et je peux remplir les chaises qui sont vides juste à côté de moi. Il y a des années, nous avons parlé de remplir les sièges vides. C'est la raison pour laquelle la collecte de fonds est une idée double, mais le fait de travailler ensemble avec l'Esprit de Dieu nous permet de pousser avec la force que nous ne pourrions pas avoir par nous-mêmes. Si nous comptions sur nos propres pas, si nous étions riches et n'avions besoin de rien, si nous comptions sur nous-mêmes, non, non, travailler ensemble amplifie la force que Dieu nous donne. Allez au psaume 19. Le prochain est, j'ai tenu ma parole. Psaume 19. Que signifie garder la parole de Dieu? Rappelez-vous, ce sont les aspects, les attributs, le caractère que nous voulons avoir pour être philadelphiens. Supprimer, enlever et se débarrasser des choses que nous avons vues auparavant, mais amplifier ces choses que nous couvrons maintenant avec le temps dont nous disposons. Psaume 19 et verset 10. Le verset 10 dit, je te cherche de tout mon cœur. Que je ne me détourne pas de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, nous ne péchons pas. Garder la parole de Dieu dans notre cœur, c'est le livre d'instruction, la définition de ce que signifie vivre et qui être, et comment agir et se comporter vient de ce livre que nous gardons dans notre cœur, qui était de la pierre et qui est maintenant de la chair, que nous devons ensuite aller vivre pour ne pas pécher et apporter les choses qui viennent du péché. Nous gardons donc la parole de Dieu. Le prochain ici. Je n'ai pas refusé mon nom. Celui-ci est super facile quand c'est un bonjour. Vous voyez quelqu'un et on vous dit, oh, vous êtes de cette église. C'est un beau campus, oh, oui, c'est vraiment, oui, merci. Je peux travailler dans ce département qui nous aide. C'est très différent de, oh, vous êtes de cette secte. J'ai entendu dire que vous ne fêtiez pas Noël et que vous sacrifiez des têtes de chèvre. Non, ce n'est pas cela. C'est à ce moment-là qu'il est facile de dire, quelle église? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ma cravate. Je suis vraiment mal habillé. Non, c'est une chance que vous puissiez renier mon nom. Non, c'est dans les épreuves et quand il faut persévérer, cela devient plus difficile. Allez au chapitre 2 du 1er Jean. C'est drôle, nous avons une petite salle de jeu dans notre sous-sol où mon fils peut courir, rebondir sur les tapis, faire des culbutes et tout le reste, et récemment, nous avons fait de la gymnastique là-bas et il s'essouffle d'une manière qui vous terrifie en tant que parent. On se dit, je suis content qu'il soit en caoutchouc à cet âge. Deux ou trois fois, il s'est cogné le genou dans la figure, et nous en avons fait un jeu, qu'il a baptisé Capitaine Persévérance. Il tombe, il trébuche, il regarde en l'air, il se relève, il porte une cape, il se relève, je suis le Capitaine Persévérance. Et on continue à jouer. C'est mignon. Nous aussi, nous devons être le Capitaine Persévérance, sauf peut-être la cape. Il se passera donc des choses, et la vie est difficile, mais nous devons être capables de dire que nous ne renions pas le nom de Dieu. Ici, dans 1 Jean 2, allez au verset, sautez directement au verset 23. On y lit, « Celui qui renie le Fils n'a pas le Père. » C'est clair comme de l'eau de roche. Nous perdons notre lien avec Christ, avec le Père, lorsque nous renions Christ, et cela peut se faire de diverses manières que nous n'avons pas le temps d'aborder aujourd'hui. Il suffit de se rappeler ce dont nous avons discuté. Mais, le verset continue. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si nous vivons notre vie, si nous n'avons pas peur de ce que nous croyons, alors nous avons accès au Père. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Encore une fois, il s'agit de ne pas renier mon nom. Verset 12. Le verset 12 dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous fera du mal, si vous suivez le bien ?» C'est ce qui est intéressant. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de renier son nom, mais de dire, « Et si vous souffrez pour la justice ?» Être accusé d'appartenir à une secte, être moqué, taquiné ou devoir se cacher. Donc, d'accord. Souffrez pour la justice, vous êtes heureux. Ne craignez pas la terreur, et ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Il y a des choses bien pires qui pourraient arriver. Nous vivons à une époque où il n'est pas courant d'être bouillé dans l'huile ou d'être déchiré membre par membre pour ce que nous croyons. Encore une fois, il est facile d'être tiède à notre époque, mais nous lisons souvent le verset suivant sans tenir compte du contexte ci-dessus. Verset 15. Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. C'est dit. Vous voyez, je ne sais pas, je ne me soucie pas de savoir si je vais souffrir pour la justice, parce que parfois, pas toujours, mais parfois, soyez toujours prêt à donner une réponse à tout homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et crainte. Parfois, on vous demande pourquoi vous appartenez à ce culte qui sacrifie des têtes de chèvre. On vous demande parfois quelle est votre religion. Pourquoi êtes-vous si heureux? Nous ne devons pas renier le nom du Christ dans les deux cas. D'accord, le dernier, je suppose. Oui, peut-être que nous en ferons un de plus. Le prochain est garder la parole de ma patience. Encore une fois, rappelez-vous, nous avons gardé la parole par avant. Il s'agit de garder la parole de ma patience. Allez donc aux Colossiens. Non, au 1 Corinthiens 13. Il manque celui de mon 1 Corinthiens et j'ai pensé, attendez une seconde. Colossiens n'a pas 13 chapitres. 1 Corinthiens, j'ai failli retourner. 1 Corinthiens 13, verset 8, et le verset 8 dit, « La charité ne manque jamais, il y aura des prophéties et elles manqueront, et il y aura des langues et elles cesseront, et il y aura des connaissances qui disparaîtront, car nous connaissons en partie, c'est familier, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie disparaîtra. Frères et sœurs, nous ne devons pas seulement garder la parole, nous devons garder la parole avec patience. Et ce n'est pas, ouf, c'est je vais continuer à aller de l'avant. Je suis souriant, joyeux, endurant. Même lorsque ce mot nous est encore expliqué, même lorsque nous sommes encore en train de comprendre les choses, nous devons être capables d'être patients, d'endurer joyeusement le processus. Nous devons courir la course avec patience. C'est ce que signifie être philadelphien. Les personnes qui n'ont pas voulu attendre, qui n'ont pas été patientes, qui n'ont pas vécu les montagnes russes, les détails et toutes les choses que nous avons dû vivre, finissent par reculer et par aller quelque part où la température leur convient mieux. Mais il est plus difficile de garder la parole et d'être zélé quand le temps passe et qu'il faut continuer et dire « Non, je vais comprendre et me développer ». Cela trace des lignes entre le philadelphien et le laodicéen. Et cela est lié au dernier point ici. Tenez fermement ce que vous avez. Tenez fermement ce que vous avez. C'est difficile pour nous, n'est-ce pas? Parce que vous devez continuer à prouver, vous devez continuer à comprendre, vous devez continuer à grandir, vous devez continuer à voir ce que Dieu révèle. C'est intéressant, ne pas s'en tenir à ce qui a été gravé dans la pierre, bien sûr, il y a un point dans ses serrures, mais s'en tenir à ce que l'on a. Vous pouvez aller à la première pierre et parler du concept de la vérité présente. Ce que nous avons est notre vérité présente. Prenons-en une simple en guise de conclusion. Allez à Proverbe 4, quelques versets que nous pouvons terminer ici. Proverbe, chapitre 4, verset 10. Nous parlons de sagesse, mais le même concept est celui de la vérité. Nous avons la vérité. Le verset 10 dit, « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ma vie seront nombreuses. Les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné les voies de la sagesse et je t'ai conduit dans les bons sentiers. Quand tu iras, ton pas ne sera pas détourné, et quand tu courras, tu ne trébucheras pas. » Verset 13. Saisissez l'instruction. Vérité, pourrait-on dire, sagesse dans le contexte. Ne les laisse pas partir, retiens-la. Gardez-la, car elle. Dans ce cas, la sagesse, ou nous pourrions dire dans un sens plus large, la vérité est votre vie. La vie éternelle. En 1 Thessaloniciens 5. Dernier passage ici. C'est un peu évident, mais je terminerai cette section par ce passage parce que c'est ce que nous devons faire. Voilà ce que signifie être un philadelphien. C'est ce que signifie rejeter les choses qui nous entraînent dans un état d'esprit laodicéenne. Vous pouvez être laodicéen et faire partie de l'Église de Dieu restaurée, car rappelez-vous, c'est une échelle mobile et nous devons travailler pour rester en feu. Revenez à ce premier amour, c'est ce qui a été dit à Éphèse. Chapitre 5 et verset 18, « En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu et du Christ Jésus, qui veut que vous soyez reconnaissants. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses. Et puis encore, retenez ce qui est bon nous, comme il est dit dans l'Apocalypse, ce que nous avons. Frères et sœurs, suis-je un chat? Suis-je un chien? Nous devons constamment réfléchir à notre condition spirituelle. Nous devons trouver, déraciner et déterminer tous les aspects de ce que signifie être laodicéen dans nos vies. Nous avons des tendances. Elles sont là. Nous devons les supprimer. Ensuite, nous devons construire, fortifier et enrichir tous les aspects de l'état de Philadelphie dans nos vies. Vous savez ce qui est drôle? Vous et moi ne pouvons pas répondre à la question « Suis-je philadelphien ou laodicéen ?» Parce que pour autant que nous puissions le déterminer, nous sommes un peu des deux. Nous ne pouvons que nous efforcer d'aller plus loin et d'être plus philadelphien, mais à un moment donné, très bientôt, nous pourrons nous tenir devant Jésus-Christ. J'aimerais que vous vous représentiez cela en terminant. Avant qu'il n'entame son jugement, vous vous tenez debout et vous dites, Christ, je peux poser une question. Christ, suis-je philadelphien ou laodicéen? Imaginez-vous parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour nous efforcer d'être philadelphiens, mais il dit, oh, vous êtes philadelphien. Bienvenue dans la famille de Dieu. Frères et sœurs, faisons tout ce qu'il faut pour que ce soit la réponse que nous recevons.